Alors, les matins débutent et c'est avec le journal de Sophie Delpont. Mais bonjour Sophie.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Les combats se sont poursuivis ce week-end malgré le cessez-le-feu entré officiellement en vigueur samedi dans le Haut-Karabakh. Nous rejoindrons sur place notre envoyé spécial Claude Bruyot.
Et c'est une semaine d'intenses négociations qui s'ouvrent autour du Brexit.
Oui, à Londres, nous ferons le point sur les enjeux dans un instant avec Aude Soufi.
Emmanuel Macron recevra jeudi les représentants des syndicats de policiers après l'attaque d'un commissariat à Champigny-sur-Marne ce week-end.
Oui, une attaque menée par une quarantaine de personnes avec du mortier d'artifice. Attaque qui n'a pas fait de blessés mais choqué policiers et habitants. Reportage à suivre. Et puis nous irons à Lyon, au théâtre où le comédien Philippe Cobert joue des extraits des Lettres de mon moulin alors que les théâtres privés subissent de plein fouet les conséquences de la crise sanitaire. La question du jour, Guillaume.
Eh bien, quel effet a eu la suppression de l'ISF? Je poserai la question à Fabrice Langlard, il est président du comité d'évaluation des réformes de la fiscalité du capital.
Dans le Haut-Karabakh, Arméniens et Azéris s'accusent mutuellement d'avoir rompu le cessez-le-feu ce week-end. L'arrêt des combats entré en vigueur officiellement samedi. Le conflit qui a pris de l'ampleur avec l'implication de la Turquie et de mercenaires syriens a causé la mort de centaines de soldats et de civils de part et d'autre dans cet affrontement entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. La Russie, puissance omniprésente jusqu'ici dans la région, montre beaucoup de retenue depuis le début de l'escalade guerrière il y a deux semaines, alors que Sergueï Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères, reçoit son homologue arménien aujourd'hui à Moscou. Précision de notre envoyé spécial dans la région, Claude Bruyot.
La réserve russe se comprend sur un point. Le Kremlin s'efforce de garder des relations constructives et d'influence, aussi bien avec Bakou qu'avec Erevan, ses anciens satellites de l'époque soviétique. Mais l'implication militaire directe de la Turquie aux côtés de l'Azerbaïdjan, par drones, conseillers et mercenaires interposés, dans le Caucase Sud, c'est-à-dire aux marges de la Russie, aurait dû engendrer de la part de Vladimir Poutine un autre type de réaction que les dernières condamnations verbales et autres messages de préoccupation. Cette attitude, plus que modérée, ne correspond pas à la grille de lecture habituelle du président russe. L'argument selon lequel l'Arménie ne peut demander d'assistance à la Russie que si elle est agressée sur son territoire, condition aujourd'hui certes non remplie, ne suffit pas à dissiper le doute. Le Kremlin semble laisser faire la Turquie, comme si les Russes voulaient mesurer jusqu'où peut aller la détermination d'Ankara sur la question du Haut-Karabakh. Recep Erdogan n'en demandait sûrement pas tant, à moins que le scénario ait été écrit par avance à quatre mains.
Claude Bruyot, notre envoyé spécial dans le Haut-Karabakh, signe le reportage de la rédaction ce matin. Ce sera à 7h24 sur France Culture.
7h02 sur France Culture, la suite du journal de Sophie Delpont, un pas de plus vers la nomination définitive de la très conservatrice Amy Coney Barrett à la Cour suprême des États-Unis.
Oui, son audition commence aujourd'hui devant le comité judiciaire du Sénat américain après sa nomination par Donald Trump. Cette audition doit se prolonger au moins jusqu'à jeudi sur fond d'élections présidentielles extrêmement tendues et d'épidémie de Covid qui frappe aussi cet organe du pouvoir. À New York, Benjamin Hilly.
La déclaration qu'elle fera à l'entame de son audition devant les sénateurs a déjà filtré dans la presse américaine. Amy Coney Barrett, 48 ans, catholique fervente, mère de 7 enfants, opposée à l'avortement, recadre le débat et rappelle donc que les décisions politiques doivent être prises par les élus. Un juge, dit-elle, doit appliquer la loi telle qu'elle est rédigée. Rien sur ses convictions conservatrices ou religieuses, alors que les démocrates minoritaires au Sénat s'inquiètent déjà de cette nomination et de la menace qu'une confortable majorité conservatrice à la Cour suprême peut faire peser sur le droit à l'avortement ou encore l'assurance santé, l'Obamacare, contre lequel Donald Trump bataille depuis son arrivée à la Maison-Blanche. La Cour suprême doit d'ailleurs se pencher sur le sujet le 10 novembre. Allez vite, c'est le mot d'ordre chez les sénateurs républicains. Bien que 3 d'entre eux soient positifs au coronavirus, mais les élus pourront choisir de participer physiquement ou virtuellement à l'audition. Et de toute façon, cette nomination est devenue un enjeu de la campagne. Le président met la pression et l'objectif, eh bien une confirmation d'Amy Coney Barrett avant le 3 novembre. Date de l'élection.
Benjamin Hilly, envoyé spécial de France Culture aux États-Unis. C'est une semaine présentée comme décisive pour le Brexit par ses négociateurs. Le Royaume-Uni et l'Union européenne tentent toujours de trouver un accord sur leurs futures relations commerciales. Le Premier ministre britannique Boris Johnson avait fixé la date ultime à jeudi prochain, date du Conseil européen, pour trouver un accord. Le secrétaire d'État français chargé des affaires européennes, Clément Beaune, estime, lui, à début novembre la fin des négociations, réaffirmant que les 27 n'accepteraient pas de compromis au rabais. À Londres, les précisions d'Aude Soufi.
Quelques jours, quelques semaines tout au plus, le délai est très court. Les deux parties se veulent optimistes, mais après 9 sessions de discussion, Londres et Bruxelles ne sont toujours pas parvenus à un accord. Vendredi, les deux négociateurs en chef, Michel Barnier côté européen et David Frost côté britannique, indiquaient avoir progressé tout en soulignant qu'il fallait encore combler d'importantes divergences. Droits de pêche, règles du jeu équitables en matière de concurrence et gouvernance font toujours obstacle. Chaque partie insiste sur la volonté de trouver un accord, mais pas à tout prix. Le Royaume-Uni pourrait très bien vivre et prospérer avec un no deal, a encore répété Boris Johnson la semaine dernière. Si aucun compromis n'est trouvé, les relations entre le pays et ses anciens partenaires européens seront, dès le 1er janvier, de nouveau soumises aux règles de l'Organisation mondiale du commerce, avec droit de douane à la clé, une perspective qui inquiète dans beaucoup de pays européens, alors que les économies sont déjà fragilisées par la pandémie mondiale.
Aude Soufi à Londres pour France Culture.
7h05 sur France Culture, la suite du journal de Sophie Delpont. Emmanuel Macron recevra les syndicats de policiers jeudi après l'attaque du commissariat de Champigny-sur-Marne en banlieue parisienne.
Oui, c'est ce qu'a annoncé hier soir le ministre de l'Intérieur qui s'est rendu sur place. Samedi soir, une quarantaine de personnes a attaqué le bâtiment avec des tirs de mortier d'artifice. Il s'agit d'engins pyrotechniques composés d'un cylindre en carton et d'une charge explosive. Ils sont notamment utilisés par les professionnels des feux d'artifice. Cette attaque n'a pas fait de blessés, mais elle a profondément choqué les policiers et les habitants. Reportage à Champigny-sur-Marne de Marion Ferrer.
C'est une ville dans la ville, un quartier régi par les règles de ses dealers. Des habitants nous ont confié devoir montrer leurs papiers pour entrer dans le hall de leur immeuble ou encore ne plus oser sortir le soir, comme cette voisine du commissariat.
Au mois d'avril, ça a été 24 jours tout le temps comme ça. Il y avait une vingtaine de camions, des policiers qui venaient, donc un renfort. C'était comme ça, les pétards, le feu. Il y a toujours des choses,
Un sentiment d'insécurité partagé par Marie et Yvette. Ces deux retraitées vivent à Champigny depuis 40 ans. Elles espèrent que l'arrivée du nouveau maire va changer les choses.
On va au cinéma, on n'y va que la journée parce que justement, on a peur de se faire attaquer le soir.
C'est-à-dire qu'on a un nouveau maire là qui va mettre une police municipale qu'on attend depuis des années. Alors là, on en attend parce qu'il vient d'être élu. Mais on est un petit peu soulagé.
Pour Mamadou, cette nouvelle police municipale n'est pas la solution. Ce militant associatif juge que le dialogue s'est rompu avec la jeunesse des cités.
On a eu déjà des renforts de police, la BST, la PSQ, toutes formes de police qui sont installées sur ce commissariat. On voit bien que ça n'a pas apaisé les choses, donc je pense que ce n'est pas la police municipale qui va régler ce type de problème.
Le maire, Laurent Jeanne, a promis 22 agents municipaux armés, mais cette brigade ne devrait pas voir le jour avant 2022.
Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a annoncé qu'il souhaitait une loi pour interdire la vente au public des mortiers d'artifice. En France, selon une enquête publiée ce matin, une étudiante sur 20 a déjà été victime de viol. Une étudiante sur 10 a déjà subi une agression sexuelle, selon le résultat de cette enquête menée par l'Observatoire étudiant des violences sexuelles et sexistes dans l'enseignement supérieur. Elle a été menée à travers un questionnaire diffusé en ligne entre avril et décembre 2019 auprès des étudiants d'une cinquantaine d'établissements et structures, universités, classes prépa, grandes écoles, BTS et DUT. Le questionnaire a reçu 10 000 réponses. Au total, 34% des étudiants interrogés déclarent avoir été victimes ou témoins de violences sexuelles. Pour 24% d'entre eux, les violences ont été subies sous l'emprise de l'alcool. La Fédération des forains de France appelle à mener plusieurs opérations escargots un peu partout sur le territoire, notamment à Paris, à Châlons-en-Champagne, à Rouen et Orléans. Dans un communiqué publié sur leur page Facebook, la Fédération des forains réclame notamment la création d'un fonds de solidarité universelle, l'annulation de leurs charges sociales et l'accès aux mêmes aides que l'événementiel pour pouvoir surmonter la crise du coronavirus. Alors que les professionnels du cirque, les autocaristes et les VTC ont aussi prévu de se rassembler à Paris aujourd'hui. Le secteur culturel est parmi les plus touchés par les conséquences de la crise sanitaire. Les théâtres privés en particulier qui ont subi de lourdes pertes de billetterie pendant les semaines de confinement ont besoin d'attirer le public pour assurer leur survie. À Lyon, le théâtre comédie Odéon mise sur de belles têtes d'affiche pour se relancer. Philippe Cobert y joue en ce moment même les lettres de Montmoulin. C'est un reportage de Mathilde Amerti.
Le théâtre Comédie Odéon, une salle de 320 places habituellement, 230 aujourd'hui, et même avec une jauge limitée, Julien Poncet, le directeur, n'affiche pas complet.
En termes de chiffre d'affaires, nous on a perdu plus de 600 000 euros aujourd'hui, donc ce qui est énorme. Et là, aujourd'hui surtout, en termes de fréquentation, quasiment 50% de nos spectateurs hésitent encore à revenir. Et c'est ce qui est assez effrayant pour nous en ce moment, c'est qu'au final, les gens viennent, mais on ne le sait qu'au dernier moment. Et c'est ça, tous les jours.
Philippe Cobert est certainement la plus belle prise de la rentrée pour ce théâtre privé lyonnais. Seul en scène pour Les Lettres de Montmoulin d'Alphonse Daudet. Et à son habitude, le comédien joue avec son public, même masqué.
Comme comédien, tous les gens masqués, etc., ça ne me fait absolument rien. Je ne les vois pas. D'abord, je suis sur scène, donc je suis ébloui. Puis en plus, je suis dans mon truc, moi, dans mes histoires, dans tous mes... J'espère que les gens partagent avec moi ma propre émotion que j'ai à jouer un tel écrivain. Et tout ce que je souhaite, c'est que les spectateurs soient comme moi, qu'ils partent dans ce monde.
La chèvre de Monsieur Seguin, le curé de Cucugnan, la mule du pape, une respiration.
Je suis Philippe depuis 1981, donc son tout premier spectacle en solo, La danse du diable. Et moi, ça fait la deuxième fois que je vais au théâtre depuis début du mois de septembre. Ah, ça fait plaisir.
Ça fait respirer, en tout cas. Je trouve que, oui, ça fait beaucoup de bien.
Si la scène de Julien Poncet jubile les soirs de spectacle, lui s'active avec les théâtres privés de région pour survivre.
Ce sont nos spectateurs qui vont nous sauver et nous donner les Là, on reçoit énormément de soutien et d'amour, entre guillemets. Mais sans les aides qui nous ont été annoncées, on va tous mettre la clé sous la porte. Pas qu'elle tarde à arriver maintenant, c'est plutôt ça le message.
Et le message de Philippe Cobert, c'est en avant.
J'ai un grand projet à Marseille l'année prochaine, sur le jouer dans les quartiers, dans les cités, etc. Et puis je vais le jouer à Paris, là, enfin, à moins que le ciel nous retombe sur la tête. Oui, ça va continuer, bien sûr.
Philippe Cobert dans Les Lettres de Montmoulin est à Lyon jusqu'au 1er novembre, puis à partir du 19 novembre à Paris au Théâtre de l'Œuvre. Face à la recrudescence de l'épidémie de Covid-19, Toulouse et Montpellier passeront demain en zone d'alerte maximale. Samedi, Lyon, Grenoble, Saint-Étienne et Lille ont également rejoint Paris et Aix-Marseille ainsi que la Guadeloupe en zone d'alerte maximale. Tous les bars y sont fermés pour 15 jours minimum. On y reviendra à 7h30 sur France Culture. Le temps sec et embrumé ce matin sur la moitié nord en majorité. Quelques averses sur la Champagne et la pointe du Finistère. Du soleil au bord de la Méditerranée. Les températures sont comprises en moyenne entre 4 et 14 degrés ce matin, avec 4 degrés à Metz, 8 à Paris, 9 à Lyon et maximum 14 degrés à Nice. Guillaume Erner.
Merci beaucoup Sophie Delpont.